Bah donc alors t'as dépilé un petit peu tous ces jeux là que t'as ramené des sons, ça avance?
Ouais, on commence, mais la liste est longue, hein, parce que on en a quand même ramené pas mal. On en fait 2-3 par semaine, mais ouais, il nous en reste encore une
C'est
petite
pas mal
dizaine,
hein.
je crois.
Salut!
Salut Flavien!
Salut Flavien.
Ça va? Je suis arrivé, je vous ai entendu parler des sons là. Ouais.
Ah là là, ça t'a fait venir!
Eh bah ouais, bien sûr. Bon moi j'y étais pas, hein. Mais bon, j'ai quand même pu essayer des petites nouveautés là, pas des sorties des sons, mais des trucs qui sont sortis il y a pas longtemps.
Ah ouais? Et t'as joué à quoi?
Bah, j'ai joué à la version Seigneur des Anneaux de Seven Wonders Duel, tu sais. Alors, ils l'appellent pas Seven Wonders Duel, le Seigneur des Anneaux, parce que ce serait bizarre, mais c'est Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu, je crois. Donc,
Ouais.
une refonte, évidemment, de
Un
Seven Wonders
reskin,
Duel.
non?
Ouais. Alors, ils aiment bien dire que c'est quand même vraiment différent. Moi, je trouve que ce soit, je trouve pas que ce soit tellement le cas. Je suis pas un grand fan non plus hein, de Seven Wonders Duel. Je dis non plus parce que je sais que c'était Pionf qui aime pas trop non plus. Je l'aime mieux que lui, mais je suis pas. Enfin, j'ai rejoué du coup pas mal là sur appli pour me dire vas-y, c'est bien de faire la comparaison. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, en termes d'émotion et de tension et tout, ça me soulève pas. Mais par contre, ça m'a permis de me rendre compte effectivement des différences avec la version Seigneur des Anneaux. Effectivement, il y a quelques trucs quand même qui sont intéressants dans les choix. Donc c'est toujours Boza et Catalin qui sont derrière. Alors je sais pas à quel point maintenant ils sont derrière ou c'est du développement en interne, tu sais. Je pense quand même qu'ils sont impliqués. Ça a été
Ouais, je
teasé
pense, ouais.
première moitié d'année avec les visuels de Vincent Dutrey, qui pour le coup est une nouveauté sur la licence, avec cette couve là et cette boîte qui est beaucoup plus grande que Seven Wonders Duel pour le coup.
C'est pour prévoir les futures extensions.
Ouais, je pense pas, non. Je pense que c'est juste pour faire une boîte plus grande. Mais ouais, du coup, en termes de game design, il y a des trucs intéressants quand même qui ont été faits. Bah déjà il y a que 8 pages de règles en fait au lieu des 13 de Seven Wonders Duel. Je m'étais pas rendu compte qu'en
Ouais.
fait il y avait tant de pages que ça dans Seven Wonders Duel. Et après il y en a
Ouais.
7 d'explication des effets. Ouais, notamment le, je sais pas si vous vous rappeliez de ça. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas joué. Le système pour récupérer des pièces, qui sont les
Oui.
jokers dans Duel, c'est chiant en fait un peu à calculer parce qu'il fallait calculer les cartes jaunes et tout. Là, ils ont vraiment simplifié. Ça se déroule toujours en trois âges. Et en fait, tout simplement, premier âge, tu défausses la carte, c'est une pièce. Deuxième âge, c'est deux pièces. Troisième âge, c'est trois pièces. Tu vois. Ça, c'est plutôt cool
D'accord.
en termes de simplification de système. Même si je pense que bah, il y a certaines personnes qui peut-être, tu vois, faisaient un moteur pour récolter beaucoup de pièces dès qu'ils défaussaient. Je pense que ça va dans le bon sens. Pareil en termes de affordance, tu vois, il y a toujours un truc bizarre dans Seven Wonders Duel, c'est qu'en fait, les ressources que tu as, c'est de la production. Tu contrôles les chaînes de production. Ça, c'est pas des
Ah oui.
ressources que tu dépenses. Et il y a pas mal de monde pour qui c'était bloquant parce qu'on a l'habitude de dépenser des ressources. Ben là, en fait, ils ont
Ouais.
transformé ça en compétences, ce qui est un peu plus logique, l'idée que tu les gardes. Tu
D'accord.
vois, c'est des trucs que tu possèdes. Bon, voilà, ça change pas
Ouais,
du tout, tout, tout le game system, mais en tout cas, ça permet peut-être de plus facilement le comprendre, quoi.
du coup, c'est plus des ressources au sens propre du terme, c'est vraiment des compétences que tu utilises, quoi.
Ben non, c'est des compétences que tu possèdes, quoi. Mais comme les ressources de Seven Wonders, en fait, mais disons que le fait que ce soit des compétences rend la chose plus lisible, je pense, et
Ouais,
plus compréhensible.
d'accord.
Il y a aussi plus de wonders, hein, il y a plus de merveilles, mais il y a quand même des. Ça, je trouve, c'est le
Il y a
truc
quoi alors?
qui aurait pu
En
être
plus.
intéressant. Je crois qu'ils appellent ça des hauts lieux. Et c'est des espèces de merveilles communes, en fait. Où du coup, il y a une espèce de course là-dessus. De la même manière, tu vois, il va falloir dépenser un peu plus que pour faire les cartes. Et ça va avoir un effet, mais sauf que, il y a un côté course, quoi. Ça, alors, c'est plus intéressant dans l'idée que dans les faits. Mais en tout cas, c'est une différence aussi. Et alors, ce qu'ils ont mis, tu sais, très en avant au niveau de la communication, c'est oui, ben, on n'a plus de points de victoire maintenant. Il n'y a que des conditions de victoire immédiate. Sérieux, j'ai pensé à
Ouais.
toi avec ta chronique de cet été.
Ouais. Écoute, c'est bien ça, non?
Bah c'est bien, mais c'est un peu un mensonge parce qu'en fait, tu peux finir la
Ah.
partie sans aucune victoire immédiate et du coup, en fait, tu regardes, il y a un nouveau truc, c'est pour la victoire militaire, en fait, tu sais, c'était un tir à la corde. Là aussi, j'ai pensé à toi, Cyrus, je sais que t'adores ça. Ça avait le mérite d'être simple, le tir à la corde, tu vois, tu prenais des icônes, tu tirais la corde vers toi. Là, en fait, t'as une espèce de plateau où tu places des troupes ou parfois des tours et donc la victoire immédiate militaire, c'est être présent sur tous les endroits de la Terre du Milieu. Et il y a un petit côté un peu wargame assez simple où tu vas placer, déplacer des troupes, enlever celles des autres, mais qui est plus compliqué quand même, tu vois, que le tir à la corde simple.
Ouais.
Et ben à la fin, si aucune victoire immédiate n'a été déclenchée, ben tu regardes qui possède le plus de territoire en fait. Donc c'est quand même des points de victoire. Ouais. Enfin, alors c'est pas les, ouais. les 40 à 70 points de victoire, mais c'est quand même des points de victoire quoi. Enfin, donc
ouais. Oui, c'est, ouais, c'est, voilà. 4, c'est pas 40 à 70, c'est 4 à 7 quoi.
C'est ça, ça ouais, ouais. Ou même un peu moins. Mais et du coup les autres, bah c'est les mêmes. Sinon, enfin non, t'as aussi la victoire aux scientifiques. Enfin, c'est plus des scientifiques. Ouais. Du coup, je vous en reparlerai parce que ce qui m'énerve dans le jeu, c'est le thème. Et là, c'est les peuples de la Terre du Milieu que t'as mis sous ta bannière. Mmh. Donc ça fonctionne pareil. Et t'as sinon un truc, je vous en reparlerai aussi parce que c'est la meilleure idée du jeu qui pour moi est pas du tout exploitée. C'est les Nazgûl qui courent vers Frodon et Sam et les Frodon et Sam qui courent vers le Mordor. Et donc t'as une espèce comme ça de oui. parcours où tu avances. Ils l'ont aussi mis pas mal en communication avec l'espèce de réglette là.
Ouais, ouais, c'est ça, ce que j'allais dire, la réglette en plexi. Hein.
Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, si les hobbits arrivent au Mordor, de gagner. Si les Nazgûl rattrapent les hobbits, de gagner. Mmh. Voilà.
C'est le côté asymétrique du jeu, ça, du coup, non?
L'asymétrie. Non, l'asymétrie, monsieur. Pas du tout d'asymétrie dans ce jeu. Aucune asymétrie, alors que.
C'est pas les peuples de la Terre du Milieu contre le Mordor, là, et.
C'est l'idée, mais sauf que tu le ressens absolument pas en jouant, en fait. C'est un peu le gros problème du jeu. C'est que, la seule asymétrie, en fait, que tu as dans le jeu, c'est que Sauron commence, mais il a deux pièces, alors que la communauté de l'anneau, comme il l'appelle dans le jeu, commence avec trois pièces. Mais sinon, ça se joue pareil.
Donc en fait, il y en a un qui est censé incarner effectivement Sauron et l'autre,
la fraternité.
Oui, voilà.
Et en fait, non. En fait,
la seule différence, c'est les pièces de départ. En fait, c'est qu'il y en a un qui
Ça. D'accord. C'est ça. C'est tout. C'est bizarre. Et c'est le gros problème, c'est que, tu vois, dans l'idée, moi, je trouve qu'il y a quand même une espèce de ressent. Le truc est un peu recentré, il y a des trucs qui sont simplifiés. Et en fait, je pense que. Juste comme ça, je pense que j'aurais préféré ça à Seven Wonders Duel, tu vois, le côté victoire immédiate, même si c'est un peu artificiel. Moi, ça me parle un peu, c'est comme si t'avais plusieurs petits tirs à la corde, tu vois, et moi j'aime bien ça. Mmh. La réalité, en fait, c'est que la thématique est aux fraises complètement et que c'est un truc marketing. Et moi, je sais que du coup, c'est intéressant parce que ça te montre à quel point la thématique peut être importante dans la perception de l'œuvre et que ça aurait pas été le Seigneur des Anneaux, tu vois. J'aurais pas ressenti la chose pareille parce que là, le fait que ce soit thématisé Seigneur des Anneaux, moi je passe la partie à me facepalmer, à me dire mais c'est complètement con comme truc et ça n'a aucun sens. Et du coup, à la fin, je me dis c'est complètement raté en fait comme proposition. Ça, tu vois, enfin, et que vraiment, c'est là pour vendre aux pigeons. Je respecte les pigeons, hein, mais j'en suis un, tu vois. J'ai pas pris le jeu parce que j'ai pu l'essayer chez d'autres. Mais tu vois, j'aime bien l'univers et tout. Et moi, du coup, qui aime bien l'univers, j'aurais bien aimé ressentir cette asymétrie. J'aurais bien aimé que si je joue Sauron, je joue pas pareil que si je joue la Fraternité de l'Anneau. Et du coup, je passe en fait le temps à me moquer du jeu. Parce que par exemple Sauron, le wording, les mots utilisés sont les mêmes, c'est-à-dire que pour Sauron aussi tu cherches le soutien des peuples, tu vois, c'est vous rassemblez le soutien des peuples, vous créez des alliances.
Il peut tenter.
Hein. Ouais, non, mais tu vois, alors qu'à la limite, même, tu vois, c'est une question de choix des mots. Ils auraient pu dire que pour Sauron, c'est plutôt dominer les peuples de la Terre du Milieu, tu vois. Mais du coup, pareil, tu vois, en fait, l'histoire des Nazgûl qui avancent ou de Frodon et Sam qui avancent, en fait, c'est des cartes Gollum, quoi, qui a des petits anneaux et où le nombre d'anneaux fait progresser d'un certain nombre de cases. À quel moment Gollum aide les Nazgûl? Gollum, il est jamais pour Sauron, il est pour lui-même à la limite, mais tu vois, il aide pas vraiment Sauron et les Nazgûl, quoi.
Non, c'est vrai.
Il aurait fallu qu'il fasse des cartes divisées avec une illustration moitié pour...
Je sais pas, mais en tout cas, du coup, ça a aucun sens, quoi. Et pareil, tu vois, enfin, les cartes que tu récupères, donc au même système que Seven Wonders Duel, quoi, avec l'espèce de truc où tu révèles des trucs, il y a des cartes face cachée et tout, avec la création d'ouverture et compagnie, quoi. En fait, moi, en tant que Sauron, je récupère des hobbits, je récupère des elfes qui sont devant moi, ça a zéro sens, quoi. Enfin, t'es là et tu te dis, ouais, pourquoi les hobbits, ils sont avec moi si je suis Sauron, quoi. Et tu vois, l'histoire de la piste où il y a les hobbits et les Nazgûl, même là, il n'y a pas la symétrie, c'est-à-dire que quand tu progresses, en fait, si tu arrives sur certaines cases ou que tu les dépasses, ça va te déclencher certains effets. C'est les mêmes, exactement à la même distance pour les Nazgûl qui poursuivent et pour les Hobbits qui avancent vers le Mordor. Tu te dis vraiment aucun effort quoi, là-dessus et enfin, ça ruine complètement l'idée du thème, quoi.
Je pense que d'après ce que tu dis, en fait, ils ont cherché à faire un jeu grand public aussi parce que le thème allait amener du grand public et du coup, il fallait pas complexifier, il fallait pas dissocier. Faire comme ça un jeu à deux où les deux rôles sont bien différents, ça aurait peut-être perdu le public visé, quoi.
Du coup, faites pas ce thème-là, quoi. Juste. Et du coup, soyez honnête ou bien si vous utilisez un thème, utilisez à bon escient, quoi.
Le thème, le thème est utilisé à bon escient, commercial.
Bah ouais. Uniquement. Mais en plus, tu vois, l'idée de la piste là en plexi là. Moi, pour moi, c'est vraiment le meilleur truc du jeu parce qu'il se passe vraiment des trucs. Il y a vraiment des émotions. Il y a une mise en scène parce que t'avances le petit Nazgûl qui poursuit. Visuellement, t'as une tension qui monte. Mmh. Même en termes tactile, tu vois, tu fais glisser la chose, il y a presque un effet un peu assez satisfaisant, tu sais. Et en fait, moi, j'aurais aimé que tout le game design soit tourné vers ça, qui est vraiment, pour moi, assez fort. En plus, souvent, tu vois, la poursuite, c'est vu comme un peu le cœur du Seigneur des Anneaux, tu vois, l'avancée vers le Mordor et tout.
Vrai.
Et finalement, ben, c'est un petit élément qui est placé sous le plateau des conquêtes de territoire. Les effets, en plus, ils sont complètement pas intéressants, ils ont pas de personnalité, du coup, même en termes de game design, ben, c'est pas centré là-dessus. Et ben, finalement, en fait, la finalité, c'est que ce truc qui aurait vraiment pu être un élément super bien, ben, ça devient juste un élément surproduit, quoi. Et tu te dis, ben, ok, vous avez fait ça, c'est bien joli, mais comme vous le mettez pas en valeur en termes de game design, ben, ça souligne juste que vous surproduisez le truc pour faire du marketing, parce que finalement, des jetons, ils auraient suffi. Et ça va avec le côté un peu tape à l'œil de la taille de la boîte. C'est pareil, tu vois, les cartes rouges qui sont la bagarre, si tu les alignes, ça fait un panorama. C'est génial, sauf qu'en fait, les cartes rouges, ben, tu les partages, donc en fait, ça fait jamais ça devant ton jeu, quoi. Enfin, quand tu joues. Donc ça, c'est complètement raté en termes de mise en scène, quoi. Il y a un dernier truc que je trouve chelou, vraiment bizarre, c'est que... Le Seigneur des Anneaux, depuis 2012, c'est Daniel Lauzon qui a repris la traduction et les livres ils sont sortis de 2014 à 2016. Et genre, le jeu n'utilise pas du tout ça. Alors, je suis pas... Enfin, je m'en fous, moi, de la traduction. Tu vois, j'ai grandi avec le film et tout. Et c'est pas forcément... Mais c'est, je trouve ça juste bizarre qu'en 2024, ils disent Frodon, alors que depuis 2014, c'est Frodo. Que ce soit la communauté de l'anneau et pas la fraternité. Que ce soit le gouffre de Helm et pas la gorge de Helm. Tu vois, enfin, je trouve ça juste bizarre. Ça a pas d'impact spécifique, mais ça me donne l'impression que ils ont tout réfléchi en termes de marketing, des visuels de Dutray et tout, mais qu'en termes de vrai travail éditorial et d'essayer de respecter la licence, en fait, c'est pas trop là, quoi.
Bah, c'est bizarre parce que c'est une licence. Mais est-ce que ça se trouve, il y a une différenciation entre la licence littéraire et la licence cinématographique? Et c'est la licence cinématographique qu'ils ont, un truc comme ça, non?
Ça, je sais pas, ouais. Ce sera à voir si justement
à la con du style, hein.
Les gens avec qui ils ont fait un contrat ont du coup les vieilles trades, je sais pas.
Ouais.
Bah, je pense que dans l'inconscient collectif, c'est Frodon et c'est tout ça.
Bah moi, ouais, mais bon.
La nouvelle traduction, je la connais pas. J'aurais peut-être été perdu avec ces termes-là. Donc,
alors, c'est que des termes dans les règles. Hein. Mais bon, moi je trouve ça bizarre. Ouais.
Okay.
Donc ouais, c'est décevant, semi-décevant, parce que moi, je suis pas un grand fan. Mais vraiment, ça me donne l'impression que ouais, tu vois, ça aurait pu être mieux. Et qu'en fait, le choix de ce thème-là pour des questions marketing, bah, en fait, ça donne une œuvre complètement foirée. Et qui, moi, effectivement, m'énerve en fait quand j'y joue, parce que je ressens juste l'absurdité du truc. Alors les gens aiment bien, il est déjà 287e sur BGG. On verra s'il dépasse son aîné. Mais moi, j'attends surtout le jeu de pli coopératif du Seigneur des Anneaux qui devrait sortir en 2025. J'espère que ce sera un peu plus réussi, un peu plus... vrai, j'arriverai ça, un peu plus à incarner les choses.
T'attends un jeu de pli, quelle surprise.
Ok, bah écoute, il y a juste avant que t'arrives, Doro allait me parler de Flatiron, qui est aussi un jeu à deux pour le coup.
Eh ah ouais. Oui, okay. C'est un jeu qu'on a ramené, des scènes parmi de nombreux jeux, on va dire. Ce qui nous a attiré là-dedans, c'est que c'est un jeu, alors initié, expert, après chacun met le niveau où il veut, mais en tout cas, c'est un jeu qui a été conçu pour deux joueurs et il n'a pas été conçu par n'importe qui, puisqu'il a été conçu par Israel Senrero et Sheila Santos, qui commencent à être bien connus maintenant, hein, les auteurs de Cathédrale Rouge, de Shinkansen et de plus récemment du Château Blanc. Donc forcément, tout ça mis ensemble, ça attire un peu. Donc ça, c'est chez Ludonova, et d'ailleurs je crois qu'il arrive en France, toujours chez Ludonova, hein, qu'il amène en France d'ici la fin d'année, en tout cas il n'y a pas de date précise.
Ah oui, c'est pas Yellow cette fois, ok.
Non, j'ai trouvé Ludonova, alors bon, est-ce que mes infos sont bonnes, on verra. Et en gros, c'est un jeu, alors vous allez peut-être m'aider, parce que moi je dirais de pose d'ouvrier, mais en fait on n'a qu'un seul ouvrier qu'on va déplacer sur différents endroits, sur un plateau, et on va faire l'action de l'endroit. Donc c'est pose d'ouvrier, mais on n'a qu'un seul ouvrier.
C'est comme Beyond the Sun un peu, ou Kanban peut-être.
C'est un open draft en fait d'action.
Hein.
En fait, c'est des actions qui sont que chez toi, ou c'est des actions
communes? Non, c'est un plateau qui est commun. Et justement, il y a cette notion de...
Bon, c'est un choix d'action bloquant.
C'est un choix d'action bloquant.
C'est ça.
C'est comme un open draft, mais avec tout dans les mêmes actions, quoi.
Et donc, du coup, le principe, effectivement, c'est qu'on a 5 emplacements où on va pouvoir poser notre ouvrier. Et le lore du jeu, c'est qu'on est en train de construire le Flatiron, ce fameux bâtiment à New York. Hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ou en tout cas,
au moins... On l'a déjà vu.
Enfin, sur des images.
Fait, je me rappelle qu'on en avait parlé quand on avait fait
sur
le,
la boîte.
Le tri sélectif. Là. Non, mais tu m'as dit que c'était le bâtiment emblématique là, qui, dont tu as deux rues qui partent de chaque côté et qui est un point triangle. Ou, enfin, je sais pas,
ouais, c'est parce qu'en fait, ce que je disais, c'est qu'à New York, toutes les rues sont au carré, sauf Broadway, qui est une avenue qui part en biais. Et donc forcément, à certains moments, quand ça croise les lignes de quadrillage, ça fait une pointe et ils ont fait un bâtiment comme ça dans une pointe. Et il est emblématique parce qu'on le retrouve dans beaucoup de films, de séries, de podcasts. C'est vraiment le bâtiment pointu comme ça qu'on voit. On l'a vu, moi je l'ai vu récemment dans la série The Boys où c'était le QG des gentils. Enfin voilà, régulièrement on le voit au cinéma ou à la télé.
Avec plein de pubs.
Et,
dessus.
Ou dans les pubs,
comme
ouais.
Ça, comme ça, ça permet de faire du placement de produits.
C'est ça. Et là, pour le coup, on va construire ce bâtiment, on remonte à la construction. Et notre rôle en tant qu'architecte, ça va être. En sélectionnant une des actions qui est sur le plateau, de venir construire des piliers. Quand il y a trois piliers, parce que le bâtiment est triangulaire, on va pouvoir mettre l'étage qui suit, à nouveau trois piliers, l'étage, etc., etc. Et on va faire comme ça cinq étages. Et donc, pour faire ça, on a quatre actions autour du bâtiment, parce que le bâtiment, même s'il est triangulaire, il est entouré de quatre rues différentes. Et quand on va venir se mettre sur une des quatre rues, on va avoir plusieurs actions au choix, soit d'acheter la carte qui est là, soit de récolter des sous, soit d'activer une action sur notre plateau personnel, puisqu'on a chacun devant nous un plateau personnel avec les quatre emplacements des quatre rues, et sur chacune de ces rues, on a une petite action, donc récolter de l'argent, construire un pilier, un étage, poser des piliers aussi, qui sont des actions spécifiques, et donc je vais avoir ce choix quand j'arrive à un endroit. Si j'achète une carte, cette carte, je vais pouvoir venir la mettre sur mon plateau personnel, et venir comme ça construire mon moteur, puisque quand je viendrai activer cette rue en m'y replaçant plus tard, eh ben je ferai toutes les actions de haut en bas. Et ça, c'est important, cette chronologie d'activation, puisqu'en fait, quand je vais acheter la carte, je vais devoir choisir si je la mets au-dessus de mon plateau personnel ou en dessous. Et comme ça va s'activer dans le sens du haut vers le bas, je dois bien réfléchir à ce que je fais. Parce que si, par exemple, j'ai besoin de sous, j'aurais peut-être intérêt à mettre gagner des sous au-dessus de l'action qui me les fait dépenser. Et comme ça, créer un moteur chronologique un peu optimisé. Mmh. Et du coup, ça, c'est vachement intéressant parce que au début du jeu, on n'a que nos quatre actions de base sur notre plateau. Et si on veut activer une action et que mon petit copain en face, il s'est mis sur la rue qui active l'action, eh ben, je suis coincé. Je ne peux pas le faire. Je vais devoir attendre qu'il dégage la place, puisqu'on est obligé de bouger à chaque tour, pour pouvoir y aller. Mais et au fur et à mesure du jeu, je vais pouvoir acheter des cartes qui vont me permettre comme ça de varier mes actions pour être de moins en moins bloqué.
Et c'est pas coop, on est d'accord. Hein. Malgré vous qu'on construisez ensemble...
On n'est pas du tout coop. T'as déjà vu des architectes coop, toi? C'est pas possible. Et donc, ça, j'ai trouvé ça très malin. C'est qu'au début, on peut bien bloquer son adversaire, lui faire patienter des tours pour que nous, on puisse faire les actions qui rapportent des points, qui sont construire les piliers ou les étages. Et au fur et à mesure, comme ça, notre moteur va nous permettre de louvoyer.
Ok.
Ce qu'on a aussi, c'est que nos plateaux personnels, au départ, ils sont différents. Dans le jeu, les piliers qu'on va construire, ils sont de quatre couleurs. Et pour faire un étage, il faut que des piliers différents. Donc on voit quatre couleurs, trois piliers, il y aura toujours un petit peu moyen de tourner pour avoir la bonne couleur. Et sur notre plateau, pour acheter ces piliers, c'est pas le même coût entre mon camarade et moi. C'est-à-dire que moi, je peux peut-être acheter un pilier orange pour 1, mais lui, ça sera peut-être 4. Et le marron, lui, ça sera 3 et moi 2, et inversement. Donc on aura comme ça une possibilité, une aisance, on va dire, à construire certaines couleurs, que lui, ça va être plus cher pour lui. Donc on a comme ça à la fois une complémentarité et une concurrence sur les couleurs un petit peu médianes.
D'accord. Et du coup, c'est juste à deux, c'est ça, moi, ce qui m'avait surpris dans le design du truc, c'est qu'ils avaient avant fait des jeux à plus. Est-ce que du coup, ils sont aussi, moi, je suis pas le plus grand fan des auteurs, j'ai pas joué au Château Blanc, j'avais pas trop aimé la Cathédrale Rouge. Mais c'est des jeux qui sont appréciés. Est-ce que, tu les as trouvés à l'aise dans cet exercice du jeu vraiment à deux?
Ouais. Moi, le jeu, il tourne très très bien, je trouve. On sent qu'il y a vraiment de la réflexion. Il y a les quatre actions sur la rue, mais il y a une autre action sur le côté qui est la mairie, en fait. Comme un tout architecte, tu dois passer à la mairie pour faire ton permis de construire et tout ça. Et ça te permet comme ça aussi de faire une action alternative qui va en plus changer dans la partie, puisque à la mairie, on peut soit gagner des sous, soit acheter des cartes qui font des points de fin de partie, soit on a une troisième action qui, elle, va changer en cours de jeu, puisque c'est des bonus qu'on va gagner, nous, au fur et à mesure de la partie. Et quand on va vouloir activer ce bonus, eh ben, pour en profiter, je vais le mettre à disposition sur cette action alternative. C'est-à-dire que si mon bonus, c'est de gagner 4 sous, eh ben, après mon jeton 4 sous, je le mets sur ce plateau mairie et tout le monde pourra aller gagner 4 sous en allant à la mairie. Donc on a un jeu aussi avec des actions comme ça un petit peu mobile dans la partie. Et c'est intéressant. Et du coup, ben, j'ai envie de profiter de mon bonus, mais j'ai pas trop envie de le donner pour qu'il soit disponible à mon adversaire. Donc il y a cette petite tension-là. Par contre, moi, ce que à l'utilisation, tu vois, on avait vu le jeu comme ça sur les tables et c'est très joli. Tu montes comme ça les étages, ça te fait quelque chose de très visuel. Hein, ça monte en hauteur et puis au final le bâtiment il fera peut-être une quinzaine de centimètres de haut, mais le problème que j'ai trouvé, c'est qu'on construit le bâtiment sur le plateau central. Et le plateau central, je vous ai dit, ben, y a les rues autour et il y a les cartes autour. Ouais. Et ben voilà, ben, quand t'as construit ton machin qui commence à faire 10-12 cm pour voir la carte qui est de l'autre côté, ben raté.
Ça bloque un peu quoi.
Ah, peut-être que c'est une difficulté.
Il faut pas donner de coup dans la table non plus quoi.
C'est ça. Bah, ils auraient pu le mettre sur un plateau à côté, mais c'était moins immersif, on va dire. Si tu commences à construire le bâtiment.
Ouais, mais t'as pas compris. C'est une mécanique innovante, en fait. Plus tu construis et plus tu caches les actions à ton adversaire.
Ouais. C'est ça, peut-être. Ou alors c'est pour faire un chamboule-toi à la fin, je sais pas. Mais... et ce que j'ai trouvé un peu dommage aussi, tu vois, c'est que les cartes qu'on achète, en gros, elles reprennent pas mal les actions de base qu'on a sur notre plateau individuel. Ouais. Peut-être un peu boosté, peu moins cher. Il y a quelques actions de plus, mais je les trouve pas très fun. Il n'y a pas beaucoup de diversité, tu vois. Par exemple, il n'y a pas aller péter un pilier d'un autre ou retirer une carte chez le voisin en face. Alors, c'est peut-être un peu vindicatif. Hein. Je suis peut-être un petit peu.
Je te vois bien construire ta tour, tu sais, avec les petits piliers et puis mettre une pichenette en plein milieu du pilier. Et boum.
Pour l'extension. Non, mais ils auraient pu. Mais voilà, les actions, je les trouve assez communes et assez, assez similaires à ce qu'on trouve. Donc, bon, peut-être qu'une extension qui amènerait un peu plus de fun, ou je ne sais pas. Mais...
Ça paraît quand même voilà. assez cohérent, tu vois, avec leur. Enfin, au moins. T'as dit Cathédrale Rouge, Château Blanc, ils avaient fait autre chose
Shinkansen Zero Kai.
Ah, j'y ai pas joué.
Mondrian, le jeu de
dés. Le côté action qui tourne, qui bouge beaucoup. Ouais. Et puis, bah, finalement, les actions, c'est des trucs qui se ressemblent, mais c'est juste des petites variations, quoi, avec un peu plus, un peu moins.
C'est ça.
Mais ça, il y a une patte quand même là. Hein.
Oui, oui. Alors, il n'y a pas de dés, parce que jusque dans tous leurs autres jeux, il y avait du dés, et là, il n'y a pas de dés, donc ouais. Ils changent un peu quand même.
Ok. Ouais. Bah, c'est pour ça. Il y a quand même l'adresse de monter les étages du Flatiron.
Ouais. Puis ce qui est intéressant, je parlais aussi de la diversité, enfin du jeu qui change dans la partie avec ses actions mairie, mais aussi chaque étage, quand on va le placer, il va apporter un petit pouvoir qui va être pour tout le monde, mais qui du coup à chaque étage va changer, puisque quand on met un nouvel étage, le pouvoir de l'étage précédent est effacé. Bah ouais. Et voilà, ça fait varier un peu le jeu aussi en cours de partie. Donc, et il y a pas mal d'étages dans la boîte. Hein, on en construit que 5, mais je crois qu'il y a peut-être une quinzaine ou vingtaine de tuiles d'étages. Donc, il y a moyen comme ça de changer un peu l'expérience d'une partie à l'autre.
D'accord.
Donc, au final, très très intéressant et très envie d'y rejouer. On en a fait qu'une partie et je l'ai expliqué à d'autres personnes pour le faire jouer. Donc, j'ai regardé notre partie, mais bien envie d'y retourner pour creuser un peu. Ouais.
Le thème, en revanche, n'a pas l'air non plus. Ok, tu construis un building, mais j'ai pas l'impression que tu te sentes forcément dans la peau d'un architecte en train de...
Non.
Ça a l'air quand même très mécanique, quand même.
C'est plutôt mécanique, ouais. Et moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que je regardais un petit peu BGG, parce que je cherchais cette histoire de pause d'ouvrier, qu'est-ce que c'était, est-ce qu'il y avait un terme pour une pause d'ouvrier unique. Et en fait, la catégorie, ben, c'est city building, en fait. C'est absolument pas ça.
Rien à voir avec le genre. Okay, bon.
City building, pas. Modular board, non, mais il n'y a pas de terme spécifique.
C'est le thème, ça, le thème. Ils confondent.
Bon, et toi, Cyrus, t'as joué à quoi?
Et ben moi, tu vois, en termes d'immersion et de thématique et tout, moi, j'ai enfin joué, j'ai envie de dire, à La Quête du Bonheur, qui est un jeu dont le professeur nous rabat les oreilles depuis des années. Et en fait, on a fait le sortant de grand jeu là sur Stefan Feld et les châteaux de Bourgogne. Et du coup, il a recité. Alors, j'ai trop envie de l'émission. Alors, écoute, ça suffit. J'en ai marre. Arrête de donner ce genre d'exemple. Moi, je le connais pas. Ça se trouve, tu m'y donnes à mort, quoi. Il m'a dit, écoute, ramène-le. Donc, on a joué à La Quête du Bonheur. Et La Quête du Bonheur. Alors, ça, c'est un jeu assez. Assez simple mécaniquement, hein. Franchement, t'achètes des cartes, t'as un système... Le principe, c'est que tu vas vivre une vie, quoi. Voilà, donc tu vas vivre une vie qui sera pas la tienne, mais tu vas démarrer de l'adolescence, on va dire, jusqu'à l'âge adulte, et tu vas même décéder à la fin du jeu. Et le but du jeu, c'est le but dans la vraie vie, quoi, c'est d'être le plus heureux possible, n'est-ce pas? Donc le vainqueur sera le joueur ou la joueuse qui aura eu le plus de bonheur dans sa vie. Et donc on va acheter des cartes qui sont des projets de vie, et il y en a une foultitude avec des trucs vraiment il y a tous les styles. Enfin, je sais pas, moi par exemple j'avais restauré une vieille voiture. Professeur, il a fait du web design. Ouais, il a fait des. On a créé un groupe de jeux de rôle. On a créé un parti politique. Tu vois, enfin, des trucs, mais il y a tout, n'importe quoi. Et puis il y a aussi des trucs que tu vas acheter. Tu vois, donc des biens que tu vas acquérir. Je sais pas, une piscine, une allée. Tu vois, tu vas faire du jardinage. Donc t'as plein de cartes comme ça. Et donc tu vas acheter ça. Et en fait, tu vas passer du temps en fait à faire tous ces trucs là. Donc c'est la partie après très cohérente, tu vois, dans le jeu. C'est-à-dire, en fait, bah, tu consacres du temps à des projets, tu consacres du temps à des trucs que t'achètes et que du coup tu vas exploiter, tu vois. Et c'est des trucs qui vont te rapporter soit de l'argent, soit comment ils appellent ça, du relationnel, de l'intelligence. Ouais. Enfin bon, voilà, t'as quatre trucs en fait, t'as quatre ressources si tu veux dans le jeu, puis il y a des
espèces. En fait, c'est les capitales, un peu les capitaux de Bourdieu, quoi, capital social, économique et culturel, ouais. Et des trucs comme ça un petit peu.
Ouais, je sais plus quel est le dernier d'ailleurs, mais bref. Et du coup, ouais, ça va être des espèces d'échanges de ressources. En gros, tu vois, quand t'achètes un truc, quand tu prends un projet, machin, mais en fait, ça va te transformer, je sais pas, du relationnel en de l'intelligence,
ou en économique.
Te faire de l'argent, ou tu vas dépenser de l'argent pour obtenir quelque chose, quoi. Donc c'est ultra basique en fait comme principe, mais tout le truc. C'est ce que tu vas te raconter en fait de tout ça, et en fait t'es en train de te créer ta vie, et du coup tu prends des trucs et en fait t'as tendance à raconter, tu vas essayer d'enjoliver un peu le truc, d'enrober, et t'as trois mots, quoi, j'ai monté une microbrasserie. Alors tu montes une microbrasserie, et puis t'as des stades en fait, donc tu vas ton projet, tu vas le faire évoluer en fait, et tu vas au début, bah tu vas faire je donne de la bière à mes copains, donc tu vas, toi t'as les autres autour de la table, genre dire regardez, j'ai fait ma bière, tenez, je vous l'ai apporté, puis t'as le cran d'après, tu dis vous savez quoi, ma bière maintenant elle est vendue dans une boutique de la ville, si vous voulez vous pouvez aller la chercher là-bas, et après j'ai vendu ma marque, tu vois, enfin des trucs comme ça.
Ah ouais.
Et tous tes trucs comme ça tu vas les faire évoluer.
C'est un vrai jeu narratif.
Et ouais, en fait c'est ouf, parce que
alors que t'as pas, j'imagine, de lecture plus que ça sur les cartes. Ouais,
mais... Non, pas du tout. En fait, c'est carrément plus narratif que plein de jeux qui se disent narratifs, alors que t'as trois mots à chaque fois. Mais en fait, t'as envie de raconter, t'as envie d'aller plus loin. T'es vraiment en mode, en fait, c'est ma vie, quoi. Je vais vous raconter ce qui se passe dans ma vie. Et alors qu'à la base, c'est effectivement un jeu de salade de points. C'est pour ça qu'on en avait reparlé dans l'émission avec Pionfesseur. Donc, effectivement, tu boubouilles des trucs, ça te fait toujours gagner des petits machins. Mais finalement, c'est un espèce de jeu de storytelling. J'ai envie de dire, malgré lui. Alors, pas malgré lui, parce que je pense que c'est fait pour. c'est pas mécaniquement, c'est pas du jeu de storytelling, quoi.
Ouais. Non, mais c'est aussi le choix du thème de le rattacher au quotidien, à la vie, au réel,
ouais.
qui facilite ça et qui facilite l'émergence de discours, je pense, tu vois, et de narration. Ouais.
Je pense que ça aide vraiment beaucoup. C'est-à-dire que le fait que ce soit des choses du quotidien auxquelles tu peux te raccrocher, même si je sais pas, t'as pas rénové de voiture, mais si t'as pas monté ta microbrasserie dans la vraie vie, même si t'as pas été web designer dans la vraie vie,
c'est des sentiments que ça t'évoque, ouais.
Ouais, ça te parle quand même, tu vois ce que c'est en fait. C'est pas comme, moi je pense à des jeux, tu sais, style Descent ou Assaut sur l'Empire. Enfin, moi je connais Assaut sur l'Empire.
Mais t'as du mal à te projeter dans les personnages, quoi.
Ouais, voilà, ouais. Bon, après tu les connais dans les séries, dans les films et tout ça, mais en fait tu peux pas raconter plus que je tape machin et puis voilà, quoi. ça s'arrête très vite. Alors que là tu te racontes, mais vraiment une vraie histoire. Et ça te marque, quoi. Parce qu'on a fait cette partie. Alors bon, le jeu, il est annoncé pour 60-90 minutes. Hein. On a joué, on n'était pas loin de 3 heures. On était 4 quand même. Pas loin de 3 heures, sauf qu'on n'a absolument pas vu les 3 heures passer. Incroyable. Franchement, à la fin, on lève la tête, je regarde le chrono, je fais « Oh la vache, on a presque joué 3 heures, quoi. » C'est juste dingue. Et moi, tu vois, dans ma partie, tu peux choisir, tu vois, de fonder une famille ou pas. Alors ça, c'est pareil, c'est ultra réaliste, parce que tu vois, si tu fondes une famille, bah tu vas y passer du temps. Et le principe du jeu, moi, donc, c'est que t'as des jetons, si tu veux, qui représentent ton temps. Et donc, en fait, ça va être des actions de moins, parce que c'est systématiquement, à partir du moment où tu fondes une famille, tu te mets avec quelqu'un, machin, en fait, tu vas lui consacrer du temps à cette personne. Ce qui est normal, voilà.
Ou à ces personnes, je crois même, tu peux te mettre à plusieurs et tout.
Non, alors, il y a quand même, il y a quand même des petites limites qui sont placées. Tu te mets en couple avec une personne. D'ailleurs, je crois que dans les règles, je sais plus dans les règles de base, tu peux peut-être pas en changer, mais bon, après, tu peux faire les règles que tu veux, potentiellement.
Bien sûr.
Et je crois que dans le jeu de base, tu peux avoir des enfants, mais ils sont pas matérialisés. Et puis professeur, il avait l'extension où tu matérialises les enfants. Et alors là,
d'accord.
Tu sais, t'as vraiment envie. Moi, je veux avoir un enfant rien que pour voir la carte, toi, pour voir ce que ça fait. Je veux savoir. Moi, je veux avoir mon Kevin, tu vois. Je veux voir à quel point ça va ruiner ma vie. Bon ben, écoute, il se trouve qu'il s'appelait pas Kevin, il s'appelait Félix, mais je t'assure qu'il a ruiné ma vie. c'est juste ouf, parce que je pense qu'effectivement, j'ai perdu la partie à cause de Félix. Quand on regarde que je suis à très peu de points près et que j'ai été obligé de prendre un métier, parce que Félix, il avait des envies de faire des grandes études, il fallait que je lui paye ses études et tout ça, je peux te dire, ça m'a bien mis dans la mouise, quoi. Alors que moi, j'étais pépère, tranquille, même pas à glander à la baraque. Tu vois, je raconte comme ça en live, mais c'est vraiment le truc que ça m'évoque, quoi. Et ça vient tout seul, en fait. Alors que je suis pas forcément quelqu'un qui a une forte imagination, même si bon, je peux baragouiner. Mais là, et puis alors, on a joué avec Gaume. Il a mis une ambiance de feu, quoi, parce que dès que tu disais un truc, il rebondissait, il enjolivait le truc, ou il l'a gravé, toi, enfin, c'était... Mais vraiment une ambiance de dingue, quoi. Franchement...
Un peu un côté jeu de rôle, en fait, où, ouais. De la même manière que, je pense, dans les bonnes parties de jeu de rôle, tu lèves la tête après ta session et t'as pas l'impression d'y avoir passé tant de temps et tu t'es raconté des choses et ça te crée des souvenirs, en fait, quoi.
Ouais, carrément, ouais. Ouais, il y a un petit côté là-dedans, ouais, dans le... Ouais, ouais, tu te racontes une histoire. Alors, évidemment, il y a des points autour, mais... Alors, le professeur, il disait, oui, tu fais des choix, des fois, par pur plaisir, juste pour le fluff, tu vois. Alors, en vrai, tu regardes quand même. Tu regardes ce que tu peux transformer comme ressource pour gagner des points. Mais effectivement, un choix équivalent, bah, tu vas dire, OK, je vais monter la microbrasserie plutôt que d'aller faire du web design, quoi.
Ouais, bah, chacun ses choix.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, okay. Ouais, vraiment une expérience de
ouf. Il n'a pas menti, quoi.
Non, il a pas menti. Tu vois, franchement, j'y allais un peu avec défiance, hein, quand même, hein, mais
oui.
Je me suis vraiment laissé embarquer. Ce petit côté un peu what if aussi, tu vois. Et si dans ma vie j'avais fait ça.
Ouais. Si t'avais eu Félix.
Et oui, si j'avais eu Félix.
T'aurais pas fait ta microbrasserie. Voilà.
Je l'ai faite quand même. Hein. Non, mais il m'a obligé à monter une épicerie, quoi. Enfin, j'ai pris le premier boulot que j'ai pu, hein. Monter une épicerie que j'ai dû revendre à perte derrière. Enfin, non, mais je vous raconte même pas. Voilà. Et mort prématurément.
Tu peux le déshériter ou pas? Non, il n'y a pas d'histoire d'héritage.
Non, je peux pas t'en débarrasser. Non,
mais c'est fou, c'est un truc où tu.
Si tu subviens pas à ses besoins, bah franchement, à la fin, j'ai préféré ne pas subvenir à ses besoins, ça me coûtait moins cher.
Ouais.
Et du coup, tu dis que tu vas jusqu'à ta mort? Mais tout le monde meurt en même temps autour de la table.
Non, il y a aussi cet aspect là, quoi. Il y a typiquement Pionfesseur, il avait des gènes, je sais plus comment ils appellent ça. Voilà, il avait des gènes solides, je sais plus comment ça t'est dit.
Gros métabolisme.
Il avait des OGM.
Et du coup, il a pu vivre plus longtemps que nous, effectivement. Et du coup, bah il fait un tour de plus, quoi. Mais quand t'es vieux, potentiellement t'as moins de temps à consacrer, quoi. Enfin, c'est alors bref, enfin, je vous passe des détails, mais il y a des mécaniques qui font que avec le temps tu prends du stress et le stress ça te bouffe, quoi. Voilà.
Ah oui, ça t'enlève du bonheur en général.
Et ouais, ça t'enlève du bonheur, mais ça t'enlève pas directement du bonheur, mais tu vois, ça te fait perdre du temps dans le jeu.
Ok.
Mais ouais, vraiment une chouette expérience. C'est un jeu.
J'attends Rob Davio pour une version Legacy sur plusieurs parties où tu incarnes, tu vois, génération après génération. Allez. Ce serait fou.
Ah oui, d'accord. Ouais, avec la. Ouais, effectivement, les différentes générations. Hein, on pourrait des héritages.
T'aurais peut-être moins pourri Félix, si tu savais ça.
c'est vrai, t'as raison.
Ouais.
Ouais, ça pourrait être cool en vrai. Il y a plein d'extensions dans le jeu. Donc, c'est un jeu grec à la base. C'est Artipia qui avait fait ça. Et donc ouais, puis on fait, il y a plein d'extensions, je sais pas, il y a des histoires de Kickstarter, moi j'ai pas trop regardé, mais je sais pas si ça se trouve encore, mais je vais peut-être mettre un œil du côté d'Okazu et tout ça.
En tout cas, t'as trouvé le bonheur avec ce jeu. C'est beau.
Ouais, ouais, effectivement, tout à fait. Non, j'ai trouvé le bonheur avec À la poursuite du bonheur. Non, la quête du bonheur. La quête du bonheur. Voilà.
Yes. Bon, ouais. Eh ben, attends, d'aller faire à manger à Félix, là. Parce que...
Ouais. Moi, j'ai un live proxy jeu, là, ce soir, avec Kurt qui va faire son Ludopif, donc je vous laisse parce qu'il faut quand même que je mange avant. Hein.
Allez.
Ouais, salut. Ciao, bye, jouez bien.
Salut, bonne soirée.
Jouez bien. Ciao.
Ciao.